noir, ni blanc. Ni noir, ni blanc. Ni noir, ni blanc. Pour une vision plus large des choses. Ni noir, ni blanc. D'un extrême à l'autre, il y a tout un monde. Au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
Pas déjà l'avant-dernière.
Non, c'est sûr que tu allais commencer avec ça. Non, je ne suis pas disposé à communiquer à propos de ce sujet.
Non, j'ai fait de l'évitement jusqu'à la dernière seconde. Ce n'est pas l'avant-dernière
non,
de Ni Noir,
non,
ni
non,
Blanc.
Non, non, non.
Alors, c'est jeudi. Bon jeudi, tout le monde. Jeudi qui était supposé être sous la pluie, mais c'était pas si pire que ça, finalement,
ouais.
Tantôt.
Ben non.
T'es en meilleur état que hier,
plus
en
sec
tout cas.
Oui,
c'est
matin.
Ça, exactement. Ouais. On est très content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. On a une émission spéciale à deux sujets seulement.
Ouais.
On a fait ça quelques fois dans les dernières semaines, un courrier du cœur d'une heure, parce que comme on vous a dit, des fois, le sujet, on peut pas le faire en une demi-heure. D'ailleurs, hier, on a regretté d'avoir pris seulement une demi-heure pour le sujet. C'était vraiment intéressant.
C'était
sur le consentement.
Ah oui, c'est vrai. C'est tellement énorme puis important.
Ben
oui, c'est ça. On est resté un peu sur notre faim.
Exactement. Alors aujourd'hui, on a un autre très bon sujet, puis comme on veut pas se faire avoir deux fois, ben on va le faire pendant une heure. Le courrier du cœur aujourd'hui qui va commencer dès 11h. Êtes-vous un sauveur en couple? Vous savez, ces gens autour de vous, là, qui, c'est souvent des femmes, en plus, j'ai l'impression, qui sortent avec des hommes qui conviennent clairement pas, là, qui ont un paquet de bébites à régler et que ces femmes-là décident de rester quand même parce qu'avec moi, il va changer. Moi, je vais peut-être être capable de l'amener à être une meilleure personne. Ces gens qui veulent sauver le monde tout le temps. Êtes-vous un sauveur? On va analyser ça avec Guillaume.
Oui.
Je pense que tu as plusieurs informations à nous fournir sur ce type de personnalité-là.
Oui, exact. Et comment ça s'inter-renforce? Parce que là, on va parler forcément de codépendance là-dedans.
Absolument. Alors, ça, c'est dès 11h. Si ça vous parle, si vous vous reconnaissez, soyez avec nous. Mais d'abord, le sujet dont on va vous parler jusqu'à 11h. On va parler de famille ce matin.
Oui.
Mais la façon dont on va en parler, ça va être un petit peu spécial parce qu'on remarque, surtout en 2021, que les modèles de famille se multiplient maintenant. Fut une époque où il y avait un père avec une mère, il y avait des enfants, il y avait souvent un mariage impliqué, à peu près pas de divorce, pas de séparation. On élevait la famille jusqu'au bout et on restait ensemble. C'était le modèle qui était privilégié. Maintenant, on a toutes sortes de modèles de famille. Et la raison pourquoi on vous en parle, c'est que j'ai vu sur les réseaux sociaux récemment qu'une personnalité publique avait annoncé donc sa grossesse et c'est une femme seule qui a eu un enfant via insémination artificielle avec son meilleur ami. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. C'est une femme qui disait, bon, je suis rendue à un certain âge, j'ai toujours voulu avoir des enfants.
Oui.
J'ai pas trouvé le partenaire avec qui former une famille. J'ai pas un amoureux, en fait. Et donc, mon ami et moi avons pris la décision d'avoir un enfant ensemble via les moyens scientifiques, alors via insémination artificielle. Et elle précise, c'est pas mon amoureux, c'est pas mon amant, c'est mon ami et on va élever cet enfant-là en équipe. Et donc, voilà, c'est un modèle maintenant qu'on peut retrouver.
Oui.
Il y a beaucoup de parents qui décident d'y aller avec la méthode monoparentale. Des fois, c'est par choix, des fois, non, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modèle de famille? Ben, les fameuses familles recomposées, maintenant.
C'est ça, puis c'est plus quelque chose là, qui est hors du commun. C'est de plus en plus là, mais
ça,
c'est
oui.
pas le... Il y a une diversification des modèles parce qu'il y a une diversification des modèles amoureux aussi, puis des relations intimes. Fait que c'est sûr que si on diversifie les types de relations intimes, ça va influencer les modèles familiaux. Et c'est un petit peu ça qu'on veut explorer aujourd'hui avec vous.
Absolument. Alors, la question qu'on va vous poser ce matin, ben, c'est très clair. C'est quoi votre modèle de famille? Ça ressemble à quoi chez vous présentement? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850.
Ça peut être aussi quel modèle familial vous êtes en train de construire,
oui,
auquel vous aspirez. Hein?
Voilà.
C'est une discussion qui est quand même assez ouverte. C'est de discuter, OK, c'est quoi les choix qu'on a? Comment on fait pour prioriser ces choix-là? Pourquoi on dit qu'on pense que c'est bon? Est-ce que vous pensez qu'il y a certains modèles qui sont meilleurs que d'autres? C'est quoi l'argumentation en arrière de ça? Donc, c'est aller plus loin que juste dire, il y a un paquet de choix. Il y a des paquets de choix, mais ils font quoi ces choix-là? Puis pourquoi vous les choisissez?
Oui, absolument. Puis ça va être intéressant parce que, par exemple, si vous êtes une famille recomposée, est-ce que les enfants se promènent d'une maison à l'autre ou c'est vous, les parents, qui se promenez d'une maison à l'autre? Parce qu'il y a des gens qui décident de faire ça.
Oui, c'est ça.
Les enfants restent dans la même maison tout le temps et une semaine, c'est la mère qui est là, l'autre semaine d'après, c'est le père qui s'en vient. C'est un modèle qui existe. Sinon, est-ce que vous êtes un couple polyamoureux et vous avez un enfant avec... vous êtes dans une méthode de coparentalité parentalité quelconque avec une ou plusieurs personnes. C'est un modèle aussi. On voit de tout maintenant là, en 2021 et c'est ça qu'on veut explorer avec vous. Alors 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. C'est quoi votre modèle de famille? Guillaume, à quel moment dans l'histoire le modèle traditionnel s'est un petit peu perdu, tu penses?
Je ne sais pas la date exacte ou la période exacte, mais c'est sûr que plus, je dirais là, depuis une cinquantaine d'années, c'est sûr qu'il y a des revirements importants qui sont arrivés. Les sociétés sont plus ouvertes maintenant à l'homosexualité, justement. Mm-hmm. L'homosexualité change beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, ça veut dire, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, c'est l'homosexualité, c'est naturel. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour la famille, pour la structure familiale? Et donc, là, la science se met là-dedans, c'est-à-dire comment on fait pour avoir des enfants lorsqu'on est homosexuel. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument diversifier les modèles d'association. Mais avoir un enfant biologiquement, c'est une chose. Puis après ça, il faut élever un enfant. Et donc, ça, c'est une autre, complètement un autre défi. Et quelles sont les variables importantes qu'on élève un enfant? Parce qu'on ne peut pas dire, moi, j'ai tel modèle familial sans parler de l'impact sur les enfants. La famille, le but premier, c'est les enfants. Donc, comment on élève nos enfants? C'est de quoi un enfant a besoin absolument et en quoi ce modèle-là fournit ce dont un enfant a besoin. Par exemple, on sait très bien, ce qui est documenté, c'est que les familles monoparentales, les parents monoparentaux, modèles monoparentaux, c'est moins efficace, ça donne de moins bons résultats pour élever des enfants de façon multifactorielle que deux parents. Après ça, on sait aussi que le sexe des parents n'a pas vraiment d'impact. C'est la qualité de la relation, mm-hmm. puis le style d'éducation. Le sexe ne joue pas vraiment, OK? Ça, on sait ça. Mais à partir de... Donc, il y a des ingrédients qui sont absolument fondamentaux pour les enfants, puis il y a des ingrédients qui ne sont pas si importants que ça. Donc, la question, c'est en quoi le modèle, peu importe, parce que là, on a de plus en plus de modèles. C'est un buffet maintenant. Dans tout le super buffet qu'on a, en quoi exactement on va retrouver les bonnes variables pour les enfants?
Puis la science est venue jouer un rôle immense là-dedans, parce que maintenant, il y a des couples qui vont faire affaire, par exemple, avec des mères porteuses, s'ils ne sont pas capables eux-mêmes ensemble d'avoir des enfants et qui tiennent absolument à le faire via ce modèle-là, bien, c'est quelque chose qui existe maintenant. Au Québec, c'est certain que ce n'est pas la même réglementation qu'ailleurs au Canada et même aux États-Unis. Alors, les subtilités, je ne les connais pas exactement, mais bref, c'est un modèle qui existe et qui surprend plus d'une personne. Moi, j'avais rencontré un couple qui avait fait affaire avec une mère porteuse. C'était une de leurs amies qui s'était proposée. Elle leur avait fait un cadeau comme ça parce que les deux n'étaient pas capables de concevoir ensemble. Puis c'est vraiment impressionnant quand même. Là. C'est où la science a amené les choses aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel.
Puis moi, mon bémol par rapport à ça, c'est que je ne suis pas sûr qu'on a l'équipement mental ou psychologique pour être capable de gérer l'étendue des possibilités qui s'offrent à nous. Parce que ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose que ce quelque chose-là est bon. Et souvent, on se dit, ben oui, puisque la science peut l'offrir, ça veut dire qu'on peut se servir là-dedans et si, c'est pas nécessairement mauvais, mais tout a une conséquence. Et je pense qu'on devrait un petit peu plus parler des conséquences et de ce que ça amène psychologiquement, toutes les différentes possibilités qu'on a.
Mais il faut en parler des modèles pour ça. Alors, oui. C'est ce qu'on va faire tout de suite après la pause. On doit s'arrêter déjà pour la première pause de l'émission. C'est quoi votre modèle de famille présentement? Vous êtes dans quel modèle? Êtes-vous une famille recomposée? Êtes-vous un parent monoparental? Comment ça se passe chez vous? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Vous écoutez Ni Noir ni Blanc.
Ni noir, ni blanc. Pour une vision plus large des choses, au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
C'est vraiment intéressant de vous lire, aussi comment vous expliquez vos modèles. On va aller parler tout de suite à Isabelle dans quelques instants, mais juste avant, je te lis un texto, Guillaume. Moi, j'ai trois filles, ma blonde a une fille. On a chacun notre maison. On vit une semaine chez moi et une semaine chez elle pour le moment. Je fais pas de discipline à sa fille. Elle ne fait pas de discipline pour mes enfants à moi. On va voir si on veut habiter ensemble après 2-3 ans, si c'est faisable. Mais pour l'instant, le fait de faire maison à part et de garder nos familles respectives, ça semble convenir. Mm-hmm. C'est intéressant quand même. Puis c'est deux maisons, puis donc les enfants ont chacun leur maison, chacun leur domaine, et eux se voient une semaine sur deux finalement, de ce que je comprends. Mm-hmm.
Ouais,
c'est intéressant, parce que quand tu as une famille recomposée, c'est vraiment pas évident de gérer les horaires de tout le monde.
C'est tout un défi, là.
Vraiment.
Parce qu'il y a de l'éducation là, qui est déjà en cours. Quand on fait du... C'est comme, mettons, en business, là, quand tu veux faire une fusion là, ou un joint venture, là, quand tu fais de la fusion-acquisition d'entreprise, un des nerfs de la guerre, c'est comment on va créer une culture uniforme de deux cultures, de deux entreprises.
Vrai.
C'est vraiment compliqué. Puis la plupart des stratégies organisationnelles, c'est de la psychologie, c'est pas des chiffres. C'est comment les gens vont fonctionner ensemble, vont être bien là-dedans, comment on va modifier les structures, comment on va adapter des nouveaux règlements, comment on va faire des transitions, comment on fera pas de jaloux, comment on va être juste.
Sans perdre la culture d'entreprise qu'on a pris des années à bâtir aussi. Là.
Comment tu perds? C'est parce que c'est ça. Quand tu fusionnes des groupes, tu gagnes quelque chose et tu perds quelque chose. C'est
même chose pour les familles.
Ça. C'est comme ça dans les sociétés, dans les groupes. C'est comme ça les familles, c'est comme ça les organisations.
Isabelle est avec nous. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Allô. On vous écoute.
OK. Ben en fait, moi je viens d'une famille, moi-même d'une famille un peu spéciale, c'est-à-dire je connais pas mon père biologique. Ma mère s'est remariée, après ça elle a eu ma demi-sœur. Ils se sont reséparés. Ensuite, les deux ont eu plusieurs conjoints-conjointes. Mon père s'est remarié beaucoup plus tard, fait que j'ai 36 ans, puis j'ai des petits frères, un demi-frère, une demi-sœur vraiment plus jeunes, qui sont vraiment pas mon frère et ma sœur non plus.
Ouais.
Et moi-même, mon conjoint, aujourd'hui, il y a un enfant d'une première union. Puis en fait, le point que je voulais apporter, c'était que peu importe la forme de la famille, il faut pas oublier que l'enfant, il est au milieu de ça, puis que lui, il y a pas deux, trois familles dans des maisons séparées. Il y a une famille dans plusieurs maisons. Puis, il faut de la communication parce que chaque séparation pour l'enfant avec les chums, les blondes, ça peut venir affecter l'enfant lui-même. Moi, j'ai été affectée par des séparations, mais tout d'un coup, on n'a plus le droit d'avoir de lien avec cette personne-là.
Exact.
Et il faut de la communication. Puis moi, mes parents, ils ont continué à fêter le Noël et nos anniversaires pendant de nombreuses années, même encore cette année quand ça a été déconfiné, mes parents se sont vus. Mais c'est toujours ça que la question qui me fait poser. Tu sais, si dans l'exemple que vous donnez, si la chicane pogne entre les deux amis, il est où l'intérêt de l'enfant? Il faut que ce soit très, très clair dès le début, puis il faut faire preuve de grande, grande maturité parce que la mère du fils de mon conjoint, elle, il n'y a pas de communication.
Et vous, Isabelle, est-ce que vous avez des enfants avec votre conjoint?
Oui, on a deux enfants ensemble.
OK, fait que vous avez deux enfants avec lui et lui a un enfant d'une union précédente.
Exactement.
Puis comment ça s'est passé, justement, de jumeler vos deux familles comme ça, de jumeler vos deux façons d'éduquer les enfants? Est-ce que ça s'est fait dans l'harmonie ou il y a eu des conflits?
Bien, il y a eu des conflits, mais je dirais par le manque de communication avec la mère. Puis parce que, tu sais, c'est dur de... Quand on est un beau parent, il faut qu'on se donne à 100%, mais on a zéro droit de regard sur l'éducation de l'autre ou de penser qu'est-ce qui est bon. Genre, hey, moi, je pense que ça, ce serait bon pour lui, ce type d'école-là ou ce type de cours-là. On peut donner notre opinion, mais on n'a pas le droit de prendre des décisions pour lui. Puis quand il n'y a pas de communication avec l'autre parent, c'est extrêmement difficile, surtout que moi, j'ai vécu un autre modèle. T'sais. Mes parents, ils se parlent encore. Jusqu'à 25 ans, ils faisaient nos horaires de Noël là, pour dire « Ah, ils vont dans la famille de l'une, de l'autre. »
Ouais.
Mais avec la mère, actuellement, il n'y a pas de communication, puis c'est vraiment ça que je déplore.
C'est sûr que quand tu impliques plusieurs adultes qui viennent de relations différentes, avec des philosophies de vie différentes, c'est difficile.
Est-ce que
c'est impossible? J'ai toujours dit que c'est possible, mais ce que ça prend pour rendre ça possible, quand tu mets plusieurs adultes qui ont supposé avoir du leadership et un impact sur les enfants, c'est que c'est facile à tirer dans tous les sens, puis l'enfant au centre, il va juste se piger quand
Absolument.
Ça fait son affaire, ça va le diviser. C'est très compliqué et c'est la raison pour laquelle le modèle qui a le mieux réussi, c'est le modèle traditionnel classique, parce que c'est le plus facile. Et c'est déjà difficile et c'est le plus stable. Est-ce que c'est le seul? Non, c'est pas le seul. Est-ce que ça amène des défis? Plus tu complexifies ton système, plus tu le rends instable, ce qui est normal aussi.
Et Isabelle, j'ai une question pour vous avant de vous quitter. Vous qui avez vécu plusieurs séparations puis plusieurs déchirements là, en lien avec des séparations, vous êtes avec votre conjoint présentement, vous avez deux enfants. Si jamais vous en veniez à une situation où ça va moins bien avec votre conjoint puis vous pensez à la séparation, compte tenu que vous connaissez les impacts d'une séparation, j'imagine que vous y penseriez une fois, deux fois, puis cinq fois là, avant de vous séparer.
Ah ouais, non, mais c'est ça que je dis toujours. C'est plus compliqué de gérer une garde partagée que de travailler sur son couple. C'est que nous, on a décidé que le jour qu'on aurait des enfants, on est là jusqu'à ce que, on veut jamais se séparer. Là. Mais c'est sûr qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, on s'est dit, c'est 25 ans minimum. jusqu'à ce qu'ils finissent leur bac, là.
C'est un contrat de 25 ans.
Problèmes, là. Ouais, c'est ça. Puis après, on fera bien ce qu'on veut, mais on se donne pas cette voie-là. Il faut qu'on règle nos problèmes. Fait que, déjà, il y a plein de sujets que vous avez abordés, puis j'ai failli appeler, mais vraiment, le fait de travailler sur nous-mêmes, pas laisser les choses pourrir, dialoguer, être ouvert, être autocritique, c'est vraiment ça. Puis on s'est chicané une fois, puis ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Je pense qu'on n'est pas si pire.
Ah, Isabelle, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci, c'est vraiment gentil. C'est une belle philosophie, hein, ça, de dire coûte que coûte, là, la priorité, c'est les enfants. Alors, nous deux ensemble, si ça va pas bien, notre travail, c'est de travailler sur notre couple, justement.
Bien, c'est parce qu'on est pas dans la mode en ce moment, c'est pas d'avoir ce discours-là. La nouvelle mode, c'est de dire moi, je veux vivre des choses comme personne et je ne veux pas me sentir brimé dans mon vécu. Je veux exprimer mes relations, d'où les différents modèles, dont le polyamour qui vient comme magiquement combler tous les besoins de ça. Et c'est. Mais des relations amoureuses intimes, ça sert à un moment donné ultimement à créer un environnement stable pour les enfants, ce qui est c'est un défi et il faut garder ça en priorité. Au lieu de faire des trips relationnels où tu penses à toi, ça c'est une chose, toi, mais les relations intimes, c'est pas un trip, là. C'est pas un hobby, c'est pas une activité. C'est un système qu'on veut créer pour le développement des enfants parce que c'est la société, c'est la race humaine qu'on est en train d'avoir sous nos mains, donc on a comme confondu deux choses, ce qu'on veut vivre émotionnellement, personnellement, comme expérience, versus le but des relations intimes.
Mais tu vois, puis quelqu'un nous écrit au 9-8-9-8-5, je viens juste de me séparer, j'ai 3 jeunes filles, je ne cherche pas à me remettre en relation pour l'instant. Mais le modèle que je rechercherai la journée où je serai prêt à me remettre en relation, ça va être que chacun habite dans sa propre maison et on se rencontre pour des activités familiales. Mais tu vois, cette personne-là ne veut pas amener ses 3 filles à habiter dans la maison de quelqu'un d'autre tout de suite, surtout s'il y a d'autres enfants impliqués, parce qu'il veut protéger sa petite famille à lui.
Là. Bon, alors, c'est ça qui est, la vie, hein, c'est pas parfait. Hein? Il y a toutes sortes d'événements, puis on dit avec ça comme on peut. C'est vrai que 2 parents, ça offre un meilleur encadrement pour les enfants, ça c'est clair. Mais s'il y a une rupture, OK, mais là, il faut penser au plan B, le meilleur plan B. Est-ce que le meilleur plan B, c'est d'avoir un nouveau partenaire instable qui vient avec son historique, sa propre famille, qui ne va pas nécessairement donner un meilleur encadrement, ou c'est mieux de rester de façon plus monoparentale et mieux gérer l'environnement? Alors, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, encore là, quel est le meilleur service qu'on peut rendre à nos enfants?
C'est vraiment pas évident, ces questions-là. Non. Lise est avec nous maintenant. Bonjour, Lise.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Lise.
Oui, j'ai 3 enfants avec un conjoint. Quand on a décidé de se séparer après 16 ans, on s'est dit la priorité, ce serait nos enfants. On a rencontré les enfants, on a discuté avec eux, puis la plus vieille a dit « Jamais, moi, je vais me promener d'une place à l'autre. » Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des condos qui étaient sur plan. Puis on avait chacun 3,5 avec chacun notre spot individuel. Puis on avait accès aux 4 chambres, dont 3 chambres, c'est une salle de jeu. Quand j'avais la garde, j'ouvrais ma porte intérieure, mon ex fermait sa porte puis il venait manger chez moi. Okay. Puis quand lui avait la garde, c'était la même affaire. Puis après ça, après 1 année ou 2, j'ai eu un conjoint. Je l'ai présenté aux enfants, je l'ai présenté à mon ex. Ça a bien fonctionné. Alors, on a vécu comme ça pendant au moins 2 ans, 3 ans. Ça a duré 6 ans, ce plan-là, en tout. Et ça a bien fonctionné. Les enfants ne bougeaient pas, les parents ne bougeaient pas. Et tout le monde a trouvé son compte là-dedans.
Mais Lise, est-ce que vous avez pas eu de difficultés pour l'intimité avec votre nouveau conjoint, par exemple? Lui, il s'est bien intégré à ça sans problème? Parce qu'il y a plusieurs conjoints qui auraient pu dire, coudonc, il me semble que l'ex est assez proche de notre bulle à nous, là.
Oui, mais ça avait été bien expliqué. Bien accepté, ils se sont bien entendus, les 2 conjoints. Donc, ça n'a pas causé de problème, vraiment, là, ça a vraiment bien fonctionné. Lui, mon ex, a eu une conjointe, mais elle n'est pas venue vivre avec nous.
Okay.
Donc, lui, sa relation était plus de vivre séparément avec sa conjointe. Mais pour ma part, moi, ça a bien fonctionné.
Mais est-ce que, Lise, pour vous, c'était une méthode ou une façon de faire qui était temporaire? Est-ce que c'était clair pour vous deux que ça, c'était en attendant que les enfants grandissent et éventuellement, dans quelques années, on va briser ça?
Oui, okay. Tout à fait. C'était pas vraiment pas marquer trop les enfants. Puis eux autres, ils ont vécu la séparation vraiment d'une façon harmonieuse. Puis quand elles ont été assez vieilles, c'est moi qui ai partie la première. Puis on a fait fermer là, les 2 condos. Puis après ça, il restait juste la plus jeune, que elle, ça la dérangeait pas. Elle était rendue en secondaire 4 et 5 là, de se promener d'un endroit à l'autre, puis éventuellement elle a choisi où rester. Mais ça a été une solution quand les enfants étaient jeunes, puis ils voulaient pas se promener là.
Élise, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci.
Oui, merci.
C'est un modèle. C'est drôle parce qu'on en a parlé en réunion tantôt de ce modèle-là. Des fois, là, ça s'est traduit par le biais de condos pour le cas de Lise, mais des fois, c'est la maison familiale demeure la maison familiale. Les enfants restent là en tout temps. Et une semaine sur deux, le parent vient habiter dans la maison. Puis on se demandait en réunion, comment c'est viable pour les parents, ce modèle-là? Comment tu crées une intimité avec un nouveau conjoint, par exemple? Comment tu réussis à te sentir chez toi, vraiment, quand c'est toi qui se promène une semaine sur deux?
Oui.
Puis on a parlé, puis on disait, l'idée, c'est de mesurer les impacts. Là, t'sais, il va y avoir des conséquences, soit pour le parent, soit pour les enfants, lors d'une séparation.
Oui, exactement.
Puis pour qui c'est pire, mettons, ces conséquences-là?
Puis avec quelle progression tu fais ces changements-là? À quel point c'est drastique ou pas ouais. drastique? Hein? Parce que n'importe quel changement doit être construit, doit être préparé, puis pas créer de brisure ou du moins le moins possible. Et ça, c'est un art, faire ça. Puis il n'y a jamais une seule façon parfaite de le faire. Mais je pense que quand les parents ils ont un bon leadership, ils ont des priorités qui sont claires, ils sont capables de communiquer, ils sont capables de le communiquer aux enfants, on sent l'espèce de sécurité à l'intérieur de la famille. Et ça fait en sorte que ça donne beaucoup plus de latitude de créer des transformations progressives. Mais encore là, il faut que les enfants se sentent encadrés.
On doit s'arrêter pour la deuxième pause de l'émission. Mission. Brigitte est en ligne. On vous parle dans quelques minutes. Brigitte, quel est votre modèle de famille? C'est la question qu'on vous pose ce matin. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Êtes-vous une famille recomposée? Êtes-vous un parent monoparental? On vous parle dans quelques instants.
On parle de tout avec vous. De retour à Ni Noir, Ni Blanc. Avec Élisabeth Crête et Guillaume Dulude au réseau Cogeco.
C'est quoi votre modèle de famille? On sait qu'aujourd'hui, en 2021, la famille traditionnelle, ça existe encore, évidemment, mais ce n'est plus le seul modèle maintenant. Il y en a plein, plein d'autres et on veut savoir comment ça se passe pour vous. Chaque modèle de famille amène son lot de difficultés et de défis et c'est ce qui est intéressant dans vos histoires et vos témoignages. Brigitte est avec nous. Bonjour, Brigitte.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, j'ai trois enfants de deux pères différents. Puis quand je me suis séparée du premier papa, je me suis réembarquée très, très vite dans une nouvelle relation qui, lui, avait deux enfants aussi. Il est venu emménager chez moi avec ses enfants très rapidement. Il m'a demandé d'avoir un bébé, etc. Je suis tombée enceinte. Puis malheureusement, ben je suis tombée sur un pervers narcissique. Donc, le masque est tombé très rapidement. J'ai vécu dans la violence conjugale pendant 3 ans. Donc, je déplore beaucoup ça, là, tu sais, de m'être engagée très, très rapidement mm-hmm. comme ça, pour mes autres enfants aussi, pour le nouveau bébé, pour tout le monde. Mais heureusement, je suis partie. Ça fait que ça, c'est la partie positive de l'histoire. Donc, heureusement, je suis partie. Puis maintenant, ben, j'ai un nouveau chum depuis 1 an, mais on fait maison à part. Donc, lui aussi, il a 2 enfants.
Mais je trouve
moi,
ça intéressant.
Je suis vraiment pas prête.
Ouais, pas prête à le présenter. Mais c'est drôle, Brigitte, que vous parlez de ça parce que je voulais en parler à Guillaume pendant ce segment-ci. Il y a des parents, il y a beaucoup, en fait, de parents lorsqu'ils se séparent et qui ont des enfants qui se demandent c'est quoi le délai raisonnable pour présenter mes enfants à mon nouveau conjoint. Et vous l'avez vécu, là, clairement, le faire trop vite, ça a pas fonctionné pour vous. Puis vous êtes un petit peu échaudée de ça pour votre nouvelle relation, j'imagine, là.
Ben oui, c'est ça, exactement. Je veux dire, je sais que mon chum présentement là, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de non violent, mais avec la relation que j'ai vécue avant, ben moi clairement, je suis pas prête à ce qu'on habite ensemble. Là. Donc moi j'habite chez moi, lui habite chez lui. On se voit, nos enfants se voient. La fin de semaine, on va être tout le monde ensemble, là, les 5 enfants ensemble, là, etc. Mais pour le moment. Je préfère que ça soit séparé, puis ben pour le moment, ça fonctionne bien.
Ça fait
un an qu'on est comme ça.
Ça a pris combien de temps, Brigitte, avant que vous lui présentiez vos enfants et vice-versa?
À mon nouveau chum?
Oui, votre nouveau chum?
On s'est présenté nos enfants après, je pense, 1 mois. Nous, on se connaissait depuis très longtemps.
OK.
Mais en disant que, tu sais, c'est mon ami, on va aller au cinéma, on va aller faire quelque chose, donc sans s'afficher comme couple. C'était comme on fait des activités avec un nouvel ami. Là.
Je comprends.
Puis après un certain temps, je sais pas, après 3 mois, je pense que moi, j'ai dit à mes enfants que c'était mon chum.
Et avec le recul, quelle est ton interprétation de ce qui est important là-dedans et comment faire des choix là-dedans? Mettons, pour une personne qui est dans ta situation, là, mettons, dans ta première relation, ça a mal été. Toi, qu'est-ce que tu retiens de ça et quel conseil tu aurais le goût de donner?
De faire vraiment attention quand on se sépare, ben puis on rencontre quelqu'un de nouveau, la personne parfaite n'existe pas. Je pense que c'est important à savoir, moi ce qui est arrivé avec l'ex, c'est qu'il était parfait dans tous les points. Donc moi j'ai vu telle une belle petite fille là, le prince charmant, puis je me suis engagée, puis à partir du moment où je suis tombée enceinte, ben il a laissé tomber son masque puis il a montré qu'il était vraiment, tu sais. Mm-hmm. Ça n'existe pas, la personne parfaite. Mon chum que j'ai présentement, même quand on s'est connus au début, ben tout le monde a ses petits défauts. Puis je pense que ça, c'est important à voir. Si on rencontre quelqu'un qui est 100% parfait, qui comble tous nos désirs, puis qui veut absolument tout faire comme nous, on veut, ça, je pense que c'est un drapeau rouge.
Quand c'est trop beau pour être vrai. Brigitte, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Guillaume, j'ai quand même qu'on discute du point de présenter les enfants à l'autre, parce que ça, c'est un questionnement que vont avoir beaucoup de parents quand vient le temps d'une séparation, puis on a des enfants. Bon, les enfants sont en garde partagée. Mettons qu'on a une bonne relation avec notre ex, puis tout se passe bien. Là, on rencontre quelqu'un de nouveau.
Oui.
Là, la question, c'est après combien de temps c'est légitime que je lui présente mes enfants et que je fasse entrer cette personne-là dans la vie de mes enfants. Mm-hmm. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal. Personne ne sait combien de temps va durer une relation.
Oui.
T'espères que ça va fonctionner et tu veux partager ces moments-là avec tes enfants. C'est quoi un délai raisonnable pour toi?
Ça n'existe pas de délai raisonnable. Un, mais deux, plus de temps que moins de temps, ouais. C'est mieux. Un. Deux, la question centrale, c'est est-ce que, d'après vous, vous avez l'équipement mental et le développement et la sagesse de sélectionner des partenaires qui ont du bon sens. Pour moi, tu sais, on parle de modèle familial, de style de vie. OK, mais moi, là, vraiment, je pense qu'on s'en fout un peu si vous n'êtes pas capable de déceler un partenaire et de lire des signes qui font en sorte que, oui, ça va être un bon ou une bonne partenaire. Ça prend cette capacité-là de sélection, parce qu'après ça, on va avoir des problèmes plus tard. C'est très difficile de se séparer. Puis en plus, si tu n'as pas la capacité de choisir un partenaire qui a de la valeur, ça veut dire que tu n'as pas la capacité de protéger tes enfants. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu es un danger pour tes propres enfants parce que tu n'as aucune idée envers quoi tu devrais les exposer. Est-ce que ton but dans la vie, c'est d'exposer tes enfants à du danger ou de la sécurité? Ben, on va dire, ben, de la sécurité. Parfait. Comment tu détermines ta sécurité émotionnelle et relationnelle? Ça, c'est la première question. C'est facile de dire, oh, finalement, le masque est tombé. Ben, c'est parce qu'il y a des signes avant. OK, c'est pas vrai que ça sort complètement de nulle part. Ça, c'est un mythe qu'on voit absolument rien. Puis c'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'on n'a pas vu des signes. L'éducation doit partir de là. C'est un cheminement personnel. Votre cerveau, il va voir ce qu'il veut voir. Si on n'est pas conscient de parties de soi qui sont pas développé ou pas exploré, le cerveau va aller chercher des compensations ailleurs. Et donc, on devient codépendant. C'est comme ça que ça marche. Donc, il faut arrêter de dire, « Ah, malheureusement, je suis tombé sur une personne qui est mauvaise pour moi. » Votre priorité, c'est de faire des choses qui sont bonnes pour vous. Puis là, vous avez des enfants en plus et vous allez les exposer. Donc, il y a comme une autre façon qu'il faut réaborder les relations intimes.
Ben, Guillaume, garde ton idée parce que c'est justement notre sujet de 11 heures un petit peu tantôt. On va y revenir en détail parce que c'est hyper vrai. Pertinent ce que tu dis. Là.
C'est parce que
c'est interrelié.
Voilà. Il faut vraiment faire le lien entre les petites choses personnelles et le système familial total.
Voilà.
Il y a un lien. Et la société au complet même.
Alors, si ça vous intéresse, ce dont on vient de parler, restez avec nous parce que de 11h à midi, c'est exactement le sujet là, qu'on va aborder dans le courrier du cœur. Guillaume, on a parlé tantôt du fait que les enfants restent dans la même maison, mais les parents se promènent d'une maison à l'autre. En fait, je pense que ça s'appelle le nesting, cette façon-là de faire.
Tu as un mot français pour ça?
Oui, c'est ça. Aucune idée.
Moi, je vais te le dire. La nidification.
ça va être ça pour vrai.
Ça paraît pas, mais je suis extrêmement fier
oui,
du mot que je viens de dire.
C'est très, très bon. On a Marie maintenant qui est au bout du fil, qui a essayé cette méthode-là, puis okay. Ça n'a pas fonctionné. Bonjour, Marie.
Bonjour, Marie. Tu as...
Bonjour.
Tu as nidifié?
Oui, je trouve ça bon, moi aussi, ce mot-là. Bon. Écoutez, quand on a décidé de se séparer, les enfants étaient quand même jeunes, là, 3 ans, 5 ans, puis on voyait que juste le fait de leur annoncer que papa, maman n'allaient plus vivre ensemble, puis tout ça, on voyait qu'il y avait de la fragilité. Fait qu'on a essayé ça. Alors, c'était 4 jours.
Puis comment ça fonctionnait? Est-ce que vous aviez un seul... En fait, vous aviez combien de maisons, là, votre conjoint et vous, pour qu'on soit clair? Dans le fond, vous aviez une maison principale.
En fait, on avait notre résidence familiale,
parfait,
si on veut. OK. Alors, on a laissé les enfants là.
Oui.
Alors, ils n'ont pas changé de chambre, ils n'ont pas rien changé. Puis, ce qui est fantastique, par exemple, dans cette méthode-là, c'est que, tu sais, la garderie est à côté, l'école est pas loin. Alors, il n'y a rien qui change, là. Puis, on aurait eu un problème d'autobus scolaire, des choses comme ça. Alors, oui, c'était bien.
Mais vous alliez où quand vous n'étiez pas à la maison principale?
Ben, au départ, je suis allée chez une amie.
Oh boy,
quand on s'est séparés, je suis allée chez une amie, ouais. Puis elle acceptait ça, que j'aille vivre 4 jours chez elle.
OK. Puis votre ex-conjoint, bon, lui, il allait où de son côté à lui?
J'y allais chez un ami aussi.
OK. Fait que vous n'aviez pas acheté ou loué une deuxième maison,
non,
là.
Okay. Non, pas pour... non, parce qu'il fallait quand même voir qu'est-ce qu'on faisait de la maison, etc. Il y avait des enjeux financiers.
Ouais.
Mais c'était quand même intéressant pour les enfants. Je voyais que c'était bien pour eux. Mais vous savez, quand tu reviens après 4 jours, là, c'est comme si tu revenais des affaires de l'autre. Hein?
Exact.
On n'a pas les mêmes standards au niveau du ménage, on n'a pas les mêmes standards pour le lavage.
Mais c'est ça, je suis content qu'on parle de ça parce que, tu sais, il n'y a pas de formule parfaite, puis c'est de se demander quelles sont les priorités. Et donc, là-dedans, dans ce modèle-là, tu établis là, que quelle priorité était centrale dans vos décisions et ça a eu, c'était quoi les désavantages et le coût majeur? Madame, êtes-vous là?
Ouais. Marie, vous êtes là, oui. Ben, en fait, on comprend la priorité centrale, c'était le bien des enfants. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Ah oui, puis on était prêts à se sacrifier là, pour le voyagement, si
parfait,
on veut. On était prêts à faire ça. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand tu te fais dire par l'enfant, ben ah, oh, maman, il y a une madame qui a couché dans ton lit.
Ah bon, oui?
Mais
c'est ça,
c'est
parce que
là,
les parents ont aussi une vie, là. C'est pas les parents, c'est un rôle de parent, mais je vous dis, il y a des besoins autres qu'un humain a besoin, genre de la compagnie, genre de la proximité physique, genre du développement émotionnel. Et donc là, ça veut dire que ça prend un lieu pour vivre ça.
Hey.
Fait que là, il y a une redondance ou une superposition des lieux communs. Donc, il y a beaucoup de petits fluides qui peuvent aller dans un même lit, là.
Hey, mais Marie, ça a duré combien de temps, finalement, cette période-là?
On a fait ça de mars à juillet. Puis à juillet, là, j'ai dit, bon, OK, je me loue quelque chose.
Ben
puis,
oui.
On fait les transferts, mais ils auront au moins vécu ça.
Il a été rapide à amener quelqu'un d'autre dans votre lit, en tout cas, de mars à juillet, c'est assez court comme délai.
Pardon?
Il a été rapide à amener quelqu'un d'autre dans votre lit, en tout cas, parce que c'est un délai assez court, ça, mars à juillet. Marie, merci beaucoup d'avoir appelé, merci. Je pensais qu'elle allait dire, on a vécu ça pendant 1 an, 2 ans. Je suis ben OK, il y a une nouvelle compagne, une nouvelle conjointe, c'est normal. Donc, ça a été assez rapide. Mais c'est correct aussi, je veux dire. Mais je peux comprendre, parce que s'il y avait eu une maison ou un appartement de son côté, son conjoint, c'est là où il aurait invité sa nouvelle conjointe. Puis c'est normal.
Ouais.
C'est pour ça que ce modèle-là, j'ai de la misère à voir comment c'est vraiment
il y a des avantages. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas d'avantages pour les enfants. C'est-à-dire que c'est extrêmement stable au niveau physique, organisation, logistique. Mais après ça, la qualité de vie des parents, parce qu'il faut... T'sais, l'environnement, c'est pas juste une maison, c'est l'environnement émotionnel, c'est l'encadrement des parents. Donc, dans quelles conditions émotionnelles sont les parents?
Voilà.
Fait que pour favoriser la logistique, ce qui est un beau but, est-ce qu'on favorise le confort et le bien-être des parents aussi?
Ben voilà.
C'est ça, là, un petit peu.
Puis toi, Guillaume, t'es le nouveau chum, là.
Ouais.
Puis t'arrives chez ta blonde, là, puis 4 jours plus tôt, c'était son ex qui dormait dans le lit où tu es présentement, puis dans 4 jours, il va revenir dans ce même lit-là.
Ouais.
C'est pas pareil. comment tu construis une intimité puis une nouvelle relation qui t'appartient, là, tu sais. Je trouve ça difficile quand même comme modèle, mais je peux comprendre, par contre, que pour les enfants, c'est infiniment plus facile, là.
C'est un défi. Aussi.
On doit aller à la pause. C'est vraiment intéressant, ce sujet-là, en passant. Quel est votre modèle de famille? C'est de ça dont on parle ce matin. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Êtes-vous un parent monoparental? Êtes-vous en famille recomposée? Avez-vous fait affaire avec une mère porteuse? C'est de ça dont on parle au retour de la pause.
Ni noir, ni blanc. Pour une vision plus large des choses, au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
Les différents modèles de famille, il y en a plusieurs. Comment ça fonctionne pour vous? Quels sont les défis qui composent ces modèles-là dans votre cas?
Les avantages et les inconvénients, puis
oui?
Comment on deal avec ça?
Absolument. Annie est au bout du fil. Bonjour, Annie. Annick, pardon. Oui, bonjour, Annick.
Oui, bonjour. Heureuse de vous parler.
Très contente.
Donc, oui, moi, mon modèle familial, en fait, c'est que je suis maman monoparentale. J'ai 41 ans, j'ai 3 enfants, dont un grand garçon de 20 ans. Et à la fin de ses études secondaires, il est allé étudier à l'extérieur pour le sport et il est tombé amoureux là-bas. Mm-hmm. Puis un jour, il a décidé de revenir et sa copine voulait venir étudier à Québec. Donc, j'ai décidé d'accueillir sa copine avec nous à la maison.
OK. Fait que là, vous avez 4 enfants, finalement, mais plus 2 adultes, mettons.
Exactement. Puis le défi, c'était que leur petit couple, en fait, fasse en sorte qu'on puisse vivre sans que moi, je me sente dans leur maison.
Oui.
Eux étaient bien.
C'est vrai. C'est un bon point.
Dans ma maison. Donc, on a mis, c'est ça, là, des lignes de conduite, évidemment, puis tout ça, pour que je continue quand même à me sentir dans mes affaires. Des fois, quand je quitte, ils sont bien contents parce qu'ils peuvent faire leur souper d'amoureux, puis tout ça. Mais ça a été quand même une dynamique très différente de ce que j'étais habituée.
Est-ce que toi, tu es en couple? Est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment?
Non, pas du tout. Moi, je suis célibataire. Je vois leur petite histoire d'amour évoluer. Je trouve ça super cute.
Oui.
Je me souhaite qu'un jour, ça m'arrive aussi.
Mais Annick, dites-moi, sans entrer dans les détails nécessairement, mais donc les parents, en fait, les pères de vos enfants ou le père, s'il y en a juste un, complètement absent, là, et ça depuis le début, c'est ça?
Non, en fait, ils voient encore leur père.
Okay.
Rendu à 20 ans, les deux autres ont 10 et 12, là, donc c'est plus fréquent. Mais à 20 ans, il fait quand même plus sa petite vie avec son travail, ses études et tout ça. Moi, j'ai vraiment le sentiment parfois là, d'habiter là, 3 adultes, 2 enfants dans la maison. Donc, en pleine pandémie, c'était pas évident.
Ouais, j'imagine.
Puis comment vous avez abordé ces sujets-là avec votre fils et sa blonde? Est-ce qu'ils comprenaient un peu vos sentiments là-dedans?
Oui, c'est sûr, parce que veux pas, si on met pas de limite à un moment donné, ça pouvait vite faire en sorte que la dynamique familiale aurait changé trop. Là, je voulais quand même que mes deux filles aussi sentent que j'étais encore la mère de la maison, puis que c'était pas eux maintenant le couple, l'état de force de la famille.
Bravo,
et on
très
bien compris ça. Ouais. C'est ça, en fait, au niveau aussi là, de tout ce qui est respect des règles. S'ils se sentaient sur le point de se chicaner, moi, je leur avais dit d'aller prendre une marche, de pas faire ça dans la maison, de pas faire ça devant les filles, d'aller prendre vraiment de l'air. Puis sérieusement, ça va bien. Ils prennent le temps de ventiler. Fait que je pense qu'en même temps, ça leur apporte aussi une certaine manière de voir leur relation. En étant là, puis obligé de sortir à l'extérieur avant de péter les plombs, comme
on dit,
de chicaner. Ils ont le temps d'aller décompresser, puis si ça va super bien, ça va faire bientôt 3 ans qu'ils sont ensemble.
Wow! Puis Yannick, avant de vous quitter, dites-moi, est-ce que, bon, évidemment, vous habitez tous sur le même toit, puis vous avez d'autres enfants aussi, est-ce que vous avez dû avoir une discussion avec eux pour leur moment d'intimité, mettons, là, de faire attention de faire ça pour que personne n'entende, puis que ça ne dérange pas les activités de la maison? Oui, hein, c'est ça.
Absolument, c'est sûr que ça, c'était le sujet un peu plus gênant là, de la chose, mais je pense aussi que ça allait de soi. J'ai pas eu à aller creuser très loin que déjà, c'était...
Ils comprenaient.
C'est compris de leur part, c'est ça. Je pense que quand je pars en vacances ou quand je suis pas là pendant quelques temps, ils en profitent plus que quand je suis dans la maison.
Annick, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci.
Ce que je trouve intéressant, mais ça, tu vois, c'est un modèle très, très atypique, mais à l'entendre, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Mais on voit comment Annick pense. Elle pense qu'il y a des règles. il y a des priorités, il y a des choses qui sont acceptables, qui ne sont pas acceptables, est capable de le dire, est capable de prendre le devant des conversations, est capable de faire respecter ces règles-là, c'est la chef de maison. Mm-hmm. Et c'est comme ça que ça marche. Elle s'est appropriée ce leadership-là et elle est claire. Et c'est ça qui fait en sorte que ça fonctionne. Puis la preuve, c'est qu'on la sent très détendue, on ne la sent pas frustrée du tout. Ça fait quand même 3 ans. Ça ne fait pas comme 2 semaines. Puis on dit, oh, so far, so good. On se croise les doigts. Ça fait 3 ans.
Ouais.
Ça fonctionne. Mais ça part de la personnalité d'Annick.
Absolument. Donc, c'est vrai. On sentait que c'est une femme forte.
Oui, puis bienveillante, puis respectueuse.
Absolument.
Mais une leader quand même.
Nathalie est avec nous maintenant. Bonjour, Nathalie.
Oui, allô?
On vous écoute, Nathalie.
Oui, ben je vous appelle aujourd'hui parce que je trouve ça super important de faire la distinction entre un parent solo et un parent mono. Moi, je suis solo parentale, donc j'ai eu 2 enfants qui ont maintenant 7 et 9 ans et que j'ai eu avec un donneur anonyme en clinique de fertilité.
OK.
Donc, c'est vraiment par choix. Donc, j'étais rendue, donc j'ai eu à 32-34 ans, tous les deux. Et à ce moment-là, j'avais, bon, l'horloge biologique à fond la caisse. Je me suis séparée parce que mon conjoint avait déjà un enfant, il n'en voulait pas d'autre. Et là, après avoir scruté les sites de rencontres, etc., je me suis rendu compte que ce que je cherchais, dans le fond, c'était un père, c'était pas un conjoint.
C'était un géniteur, en fait, c'est ça.
C'est ça, exactement. Puis là, je voulais pas non plus avoir un enfant avec un one night, quoi que ce soit.
Ouais.
Alors finalement, après avoir passé ma peine d'amour et y avoir réfléchi, je me suis tournée vers la clinique de fertilité. Et donc, mes enfants proviennent du même donneur anonyme.
OK. Quand même. Et là, ça, dans le fond, vous n'avez pas eu de partenaire dans votre vie depuis les dernières années? Vous êtes vraiment seule avec vos enfants depuis le tout début?
Bien, j'ai eu un partenaire, mais on n'a jamais habité ensemble. Et c'est le seul partenaire que j'ai eu depuis le début de mon projet, dans le fond.
OK.
On est encore amis, mais donc c'est ça. Tu sais, j'ai pas de conjoint. Puis pour moi, c'est pas une priorité d'avoir un conjoint parce que j'ai mon agenda quand même assez rempli avec ces petits cocos-là. Et je verrais pas comment je pourrais faire en sorte de faire aligner tout ça avec quelqu'un dans ma vie à ce moment-ci.
Et là, Nathalie, parlez-nous des défis. Parce que évidemment, être solo parental, comme vous le dites, là, vous occupez de tout et absolument tout vous-même. C'est sûr que ça a son lot de défis. Là. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous?
Ce qui est le plus difficile, je dirais, c'est plutôt... j'ai un bon emploi qui me permet d'aligner vraiment ma vie de travail, ma vie de famille ensemble. Donc déjà là, c'est vraiment une chance que j'ai. Ça s'est quand même toujours assez bien passé, mais je pense que c'est vraiment une question de d'énergie, d'argent, de temps. Donc, autant qu'on n'a pas des discussions à avoir en couple, puis pour vraiment faire arriver nos valeurs, etc. Donc, c'est vraiment en solo. C'est moi la seule personne qui décide. Par contre, c'est ça. C'est l'énergie, c'est le temps, c'est l'argent aussi.
Ouais.
Puis, mais je dirais ce qui a été le plus difficile, en fait, c'est que là, nous, on a vécu quelque chose d'assez spécial. Là. Ma fille a eu un cancer. Et donc, elle est en rémission. Là. Dans 3 mois, ça va être terminé. Elle a eu la leucémie. Donc, ça fait plus de 2 ans qu'on court des hôpitaux. Je dis, on, c'est moi puis ma mère.
Okay.
Et d'ailleurs, depuis un an, j'ai acheté une bigénération. Et là, ma mère, elle, a son appartement dans le sous-sol.
Okay.
Donc, ça, c'est très aidant aussi.
Oui, je comprends. Hey, c'est tout un défi, par exemple, pour un parent seul, là, de faire face à tout ça. Là. Ouf, ça peut être facile.
Oui,
mais on en sort grandi, je pense.
Wow. Ben, Nathalie, merci beaucoup
bravo.
D'avoir appelé.
Merci.
Bravo et merci. C'est incroyable à quel point c'est différent d'une personne à l'autre. Hein. Puis, je pense que ce que Nathalie fait comme travail seule, je pense que ça prend un type de personnalité puis une force intérieure pour
c'est
être
clair.
Capable d'accomplir
c'est
ça.
C'est clair que c'est pas tout le monde qui a le même équipement, qui a la même capacité à gérer des défis, encaisser des émotions négatives, encaisser du stress, prendre des responsabilités, être capable d'avoir une structure mentale. C'est pas les mêmes personnalités. Donc, c'est sûr qu'une famille, là, c'est littéralement comme un gigaprojet. Comme n'importe quel projet, il faut beaucoup d'organisation. Puis surtout, il ne faut pas y aller au jour le jour. Il faut bien gérer les émotions. Il faut tout le temps avoir des plans. La planification, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est capital. Puis les gens qui réussissent le plus en affaires et qui réussissent le plus dans la business familiale, ce sont des gens très organisés. Je parle pas de robots, là, mais je parle d'organisation mentale et de structure. C'est absolument important.
C'était vraiment, vraiment intéressant, en tout cas, vous entendre. Et je sais qu'un des points qui vous a fait le plus réagir, c'est quand Guillaume m'a parlé du choix du partenaire, à quel point c'est important, surtout quand on veut former une équipe comme une famille. C'est un petit peu notre sujet qui s'en vient dans quelques minutes. On doit s'arrêter pour la pause et pour le bulletin de nouvelles. Mais dans quelques minutes, c'est le courrier du cœur spécial 1 heure. On va parler des sauveurs. sauveurs, les gens qui veulent absolument être des sauveurs ou qui s'imposent comme sauveurs.
Oui. Parce qui aiment ça,
qui se nourrissent de ça vraiment, puis qui ont donc bien l'impression qu'elles vont réussir ou ils vont réussir à sauver ce partenaire-là, puis à l'amener à être une personne extraordinaire. C'est le sujet dans quelques minutes. Oui. Alors, pause, bulletin de nouvelles, restez avec nous. Courrier du cœur au retour.